Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Justice en RDC, le verdict est tombé hier mercredi 11 mai dans les procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana à la haute cour militaire de Kinshasa. Au cours de ce nouveau procès ouvert l'an dernier, trois policiers ont ainsi été entendus. L'ancien commandant du bataillon Simba de la police nationale et commissaire supérieur Christian Ngoyi Kenga-Kenga a été condamné à la peine de mort pour notamment assassinat et désertion. Le policier Jacques Mugabo, reconnu comme étant l'un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Cependant, Paul Mouilamwe, pour sa part, lui qui a détaillé le film de ses doubles crimes devant les juges, est simplement acquitté. Quelle lecture faire du déroulement de ces procès et quelles leçons peut-on en tirer? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Maître Rostand Manketa, il est président de l'ONG de défense des droits de l'homme, Voix des Sans Voix, VSV en sigle. Bonsoir Maître Rostand Manketa.
Bonsoir, je suis Maître Rostand Manketa, je ne suis pas Maître Rostand.
Merci beaucoup pour la précision. Maître Jean-Marie Kabengela, avocat au barreau de Kinshasa Matissé. Bonsoir Maître Jean-Marie Kabengela.
Bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Et Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, en sigle. Bonsoir Dismas Kitenge.
Bonsoir tous les amis de la Radio Kafi et tous mes co-débatteurs.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Et bien le rentre au Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire de cette émission, le verdict est tombé hier mercredi soir dans les procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana à la haute cour militaire de Kinshasa. L'ancien commandant du bataillon Simba de la police nationale et commissaire supérieur Christian Ngoyi Kenga-Kenga écope de la peine de mort pour assassinat, désertion, détournement d'armes et munitions de guerre. Il est destitué de la police. D'autres détails avec vous, Jeff Ngoyi.
Le policier Jacques Mugabo, l'un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Cette peine est assortie d'une sûreté de 10 ans. Il est aussi destitué de la police pour désertion simple dont il a été accusé. Paul Mouilambou est simplement acquitté. En faveur des partis civils de Chebeya Bazana, VSV et Renadoc, la haute cour militaire a sanctionné Christian Kenga et Mugabo en solidarité avec l'État congolais civilement responsable. Ils sont condamnés à réparer le préjudice causé aux partis civils par le paiement des montants initialement fixés par l'arrêt de la haute cour le 17 septembre 2015, soit plus de 600 000 dollars. Rappelons qu'au premier degré, Mouilambwe Kenga et Mugabo avaient été condamnés à la peine capitale. Au procès en réouverture, seul Paul Mouilambwe s'en est ainsi tiré sans aucune charge. L'arrêt de la haute cour a reconnu que le général Zelo Djadjidja avait attribué en 2010 sa concession de Mitindi à l'inhumation de Bazana, ce qui a réconforté les partis civils pour le prochain round du procès Chebeya Bazana.
Merci à vous, Jeff Ngoy. Monsieur Rostand Manketa, président de l'ONG de défense des droits de l'homme, Voix des Sans Voix, VSV en sigle. Le verdict en appel est tombé hier mercredi. Comment vous réagissez face à ce verdict, monsieur Rostand Manketa?
Merci beaucoup. Je voudrais de prime abord remercier Radio Kafi et vous-même pour l'invitation à cette émission combien importante consacrée au procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. Je salue également Maître Kabengela Ilunga et mon aîné Dismas Kitenge, avec qui je considère que nous allons échanger. Permettez-moi d'abord de vous dire que l'assassinat de notre ancien directeur exécutif, Floribert Chebeya, et de l'un de nos membres effectifs est resté une préoccupation majeure au sein de la Voix des Sangs pour les droits de l'homme. Et tant qu'on ne leur aura pas rendu justice, nous continuerons à nous battre pour cela, avec l'appui bien sûr de toutes les ONG au niveau national et international. Je voudrais saluer la volonté politique des autorités actuelles, des autorités congolaises, de notre pays, qui ont permis l'organisation de ces procès en appel avec les trois prévenus qui ont été cités. Mais comment nous avons accueilli ce verdict rendu hier par la haute cour militaire? Je crois qu'il est important de souligner que nous étions là dans un procès en appel, un procès qui est venu après plusieurs rebondissements, des révélations des policiers qui ont participé à l'assassinat de deux défenseurs des droits humains, et cela depuis février 2021. Et cela a été suivi de beaucoup d'arrestations, Christian Ngoy Kingakenga, Doudou et plutôt Jacques Mugabo et bien d'autres. Donc il y a eu, je crois aussi, il faut dire avant cela, toutes les déclarations très très constantes du Major Paul Milambwe, dont nous saluons l'acquittement, qui ont vraiment contribué à apporter beaucoup de lumière sur cet assassinat. Il est vrai que c'était un procès en appel, mais il méritait d'avoir fourni beaucoup d'informations, beaucoup de données qu'on n'avait jamais eues, je dirais au premier degré, au premier procès, et puis en appel. Et cela a changé vraiment toute la donne.
Peut-on dire que, M. Rostand Maketa, peut-on dire que le verdict tel qu'il a été rendu hier a satisfait l'ONG La Voix des Sans-Voix?
Merci beaucoup, je voulais y arriver. La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, je dois vous le dire clairement, est partiellement, j'insiste sur le mot, partiellement satisfaite, mais a pris acte de ce verdict. Je vais m'expliquer. En fait, nous sommes contents de la condamnation de Christian Ngoy Kingakenga, colonel et ancien commandant du bataillon Simba, et très proche du général John Numbi, hein, à la peine capitale. Mais je voudrais souligner qu'en tant que défenseur des droits humains, nous ne sommes pas partisans de la peine capitale, mais j'espère que Christian Ngoy Kingakenga aura passé tous les restes de sa vie en prison. Nous avons pris acte également de la condamnation à 12 ans de prison de Jacques Mugabo, mais la VTV considère que cette peine-là est un peu insuffisante, elle est dérisoire. Hein, au regard de la gravité du crime auquel il a participé. Enfin, comme je l'ai dit, nous avons salué l'acquittement du major Paul Milambwe. Et je crois que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup à faire encore dans ce procès, parce que pour nous, hein, au-delà de ce qui s'est passé hier avec ce verdict, nous continuons à attendre, franchement, je dois le dire, nous continuons à attendre ce nouveau procès au cours duquel comparaîtra le général John Numbi et peut-être bien d'autres personnalités qui ont été abondamment citées au cours de ce procès.
Rostand Maketa, vous avez cité des personnes qui ont été condamnées à l'issue de ces procès en appel. Et ceux qui sont condamnés, n'est-ce pas, ceux qui sont concernés, sont tous agents de l'État, c'est des policiers. Et quelle peut être la responsabilité de l'État dans une affaire dans laquelle ces agents sont mis en cause?
Écoutez, je crois que la responsabilité de l'État congolais est clairement établie. Hein. Il y a, je crois, que beaucoup de faits que nous pouvons avancer. Il faut voir d'abord où a été assassiné Floribert Chebeya, où a été assassiné Fidel Bazana. C'est dans les installations de l'État, dans les installations de la police nationale congolaise. Police nationale congolaise, pourtant appelée à sécuriser les personnes et leurs biens. Et donc là, il y a clairement une certaine irresponsabilité de la part de l'État congolais, hein, que des policiers se soient comportés de la sorte au lieu de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais ce sont les policiers qui ont donné volontairement la mort à Floribert Chebeya et de manière préméditée et à Fidel Bazana et Dadi. Donc là, franchement, il n'y a pas à tergiverser. La responsabilité de l'État congolais est vraiment très très engagé.
Voilà, vous avez dit que tant qu'on ne va pas rendre justice, on va continuer à se battre. Vous allez continuer à vous battre, donc vous avez l'impression que après ces verdicts d'hier, la justice n'est toujours pas rendue.
Écoutez, dire que la justice n'est toujours pas rendue, je crois qu'il faut dire qu'il y a quand même un pas qui a été franchi avec le verdict d'hier. C'est comme ça que nous avons dit que nous sommes partiellement satisfaits. Nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais quand même partiellement satisfaits, je dois le souligner. Mais je crois que tout n'est pas fini. Nous continuons à compter sur la volonté politique des autorités congolaises pour que ce dossier aille jusqu'au bout. Notamment, cela doit passer par la comparution effective de la John Lungi Banda Tambo.
Merci, Maître Jean-Marie Kabengela, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Quelle lecture vous faites de ce verdict qui a été rendu hier ici à Kinshasa? Maître Jean-Marie Kabengela? Apparemment, il n'est pas là. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Les verdicts de la haute cour militaire rendus hier ici, dans la ville de Kinshasa, dans les procès Chebeya, vous a-t-il surpris ou vous vous attendiez à cela?
Bonsoir une fois de plus à tous les auditeurs et mes co-débatteurs, Rostin Maketa que je salue et Maître Kabengela. Je voudrais dire que ce verdict, donc je l'ai accueilli avec une satisfaction partielle. Partielle puisque toute la vérité n'a pas été dite dans ces procès et la justice congolaise, malgré les efforts qu'elle a fournis, elle n'a pas disposé de tous les moyens pour faire le travail correctement afin que toute la vérité éclate et que tous les coupables soient identifiés et condamnés. Pourquoi je l'ai dit? Puisqu'on a vu que toutes les personnes qui ont été citées n'ont pas comparu. Deuxièmement, la justice n'a pas disposé des moyens modernes, scientifiques, pour faire des descentes sur le terrain, pour exhumer le corps, tous les moyens qu'il faut, les moyens financiers, les moyens de coopération aussi avec d'autres pays. Il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été décerné par la justice congolaise et qui a été remis à l'Interpol. Là, il y a tout le travail de suivi de ça, suivi de l'exécution de ces mandats d'arrêt international par différents États de la communauté internationale. Il faut souligner que le mandat d'arrêt international a été décerné contre le général fugitif John Numbi, qui se trouverait donc dans un des pays du monde. Et la justice, avec ces mandats d'arrêt qui a été remis à l'Interpol, pouvait être en mesure, si la justice congolaise a obtenu la coopération de tous les États, à identifier là où le général Numbi se cache et éventuellement à les transférer au pays. Ça, nous avons constaté que notre justice a encore des difficultés. Néanmoins, il y a aussi des choses qu'il faut souligner. Souligner pourquoi? Puisqu'il faut saluer les efforts de la justice congolaise et des autorités congolaises également, qui ont montré à travers ces procès leur engagement. Je ne parle pas de la volonté politique, mais je dis quand même qu'ils ont posé des actes qui méritent d'être soulignés. Mais la volonté politique devait aller plus loin pour accompagner la justice congolaise à avoir le moyen pour exercer une pression politique et diplomatique auprès des États ou auprès de l'État où se cacheraient encore certains fugitifs. Il n'y a pas que le général John Numbi, mais tout de même, on souligne, on salue ses efforts. On doit reconnaître aussi à travers ces procès la détermination des parties civiles à avoir la justice, à avoir la vérité et la réparation. Donc les parties civiles, la BSV, derrière la BSV, il y a toute la société civile congolaise et internationale qui s'est mobilisée pour que ces procès puissent avoir lieu, au moins dans sa phase 2, la réouverture. On doit souligner aussi la coopération des témoins, principalement, particulièrement, voulais-je dire, l'apport, la détermination, l'engagement de monsieur Paul Milambwe, le major Paul Milambwe, qui était en exil, qui a fui, mais qui, dans sa conscience, a jugé bon de venir témoigner, apporter en tout cas sa contribution significative à ces procès. Il faut aussi reconnaître, souligner la la coopération des témoins, je l'ai dit, aussi les efforts des avocats des parties civiles. Aux côtés des parties civiles, les avocats ont fait un grand travail. Ils ont montré leur détermination. Donc voilà, nous avons obtenu ces procès, ces verdicts. Mais nous devons dire que ce n'est qu'une étape dans les différentes étapes. Toute la vérité n'a pas éclaté.
Lorsque vous dites que toute la vérité n'a pas été dite, quelle est cette vérité qui n'a pas été dite et qui devait être révélée au cours de ces procès?
Oui, au cours de ces procès, il a été démontré que l'ordre a été donné de tuer Tchebeya et Fidel Bazan. Mais qui a donné l'ordre? Est-ce que c'est le général Numbi? Il a été dit par beaucoup de témoins que ça aurait été lui. Mais si lui qui a été le chef de la police, qui a donné cet ordre, c'est qu'il a reçu cet ordre aussi de quelqu'un d'autre. Et cette démonstration n'a pas été faite par la justice congolaise à cette étape. Juste, on a reconnu que l'ordre a été donné de tuer Tchebeya. Mais il n'y a pas eu une forte démonstration pour montrer comment le général Numbi a donné cet ordre-là. À l'absence du général Numbi, qui devait être arrêté et traduit devant la justice, mais il y a eu aussi d'autres personnes, puisque au cours de différentes audiences, le major Paul Milamwe a bien souligné que le général Numbi a eu un ordre du président, de l'ancien président de la République. Mais l'ancien président de la République est encore en vie. Il aurait été mieux que pour l'éclatement de la vérité, qu'il soit entendu pour donner sa version des faits. Ça a été aussi quelque chose qui n'a pas été fait par la justice actuellement congolaise. S'il ne pouvait pas être considéré comme prévenu parce qu'il n'y avait pas de charges, il n'y avait pas cette démonstration, tout au moins comme renseignant, il devait comparaître. On n'a pas eu ça. Il y a eu aussi d'autres personnes, plusieurs personnes qui ont été citées, qui n'ont pas comparu. Donc, lorsqu'on dit non seulement que ces personnes n'ont pas comparu, mais aussi comme ça relève, c'est un crime d'État. C'est-à-dire, c'est toute une machination des autorités qui représentaient l'État, qui avaient le pouvoir de l'État et qui ont agi en fonction de ces pouvoirs pour donner mort à deux militants des droits humains. Donc, les différents responsables des services qui étaient impliqués d'une manière ou d'une autre devaient être entendus, clairement montrer leurs responsabilités ou leur participation tout au moins à ces crimes qui sont considérés aujourd'hui comme crimes d'État.
Et lorsque on a affaire à un assassinat dont les preuves matérielles n'existent pas encore, et dans les cas d'espèce, il s'agit de Fidel Bazana dont le corps n'a jamais été trouvé, la Cour procède comment pour juger une telle affaire?
Mais la Cour a considéré que c'est une disparition. La Cour a considéré que c'est une disparition qui a été occasionnée par les autorités de la police de l'époque, puisqu'il était avec Tchebeya. Ils sont arrivés à la police, et de là, de la police qu'il a disparu. Et puis, quand la disparition a duré autant d'années qu'on n'a pas d'éléments de preuve, on peut considérer que cette personne ne vit plus. Donc c'est pour cela, lors du premier procès, non seulement Fidel Bazana a été considéré comme un disparu, mais la justice était arrivée à déterminer qu'il était déjà décédé. Et puisque sa disparition dure pendant quelques temps et personne n'a de ses nouvelles, donc on peut soupçonner, on peut considérer, présumer qu'il n'est plus en vie, puisqu'on n'a plus ces traces-là. Donc la justice a déterminé qu'il a bel et bien disparu et qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne n'a de ses nouvelles.
Merci.
Alors là, c'est les enquêtes. Les enquêtes fouillées au niveau du parquet militaire avec le moyen dont j'étais en train de vous dire que notre justice n'est malheureusement à l'heure actuelle ne dispose pas de ces moyens-là scientifiques, ne dispose pas de moyens scientifiques de haut niveau pour arriver par exemple à exhumer le corps, pour arriver même à sortir du pays pour aller rechercher les enquêtes, à recourir à des équipes de médecins légistes spécialisés. Donc voilà, il y a eu aussi ces limites de ces procès.
Merci,
les procès n'ont montré pas que les avancées, mais a montré aussi les limites.
Merci Dismas Kitenge. Maître Jean-Marie Kabengela, est-ce que vous êtes là? Maître Jean-Marie Kabengela, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Voilà, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa à Matete. Quel lecture vous faites de ces verdicts qui ont été rendus hier à la haute cour militaire ici à Kinshasa?
Merci beaucoup pour la question. Mais permettez-moi d'abord de saluer les animateurs de notre justice qui ont rendu cette justice. Et saluer également les avocats des partis civils, sans oublier tous les acteurs de la société civile qui luttent pour l'émergence de l'état des droits et la prééminence des droits humains dans notre pays. l'arrêt qui a été rendu hier, me semble, n'a fait que partiellement le travail de rendre justice à Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. Pourquoi partiellement? Parce que cette décision d'hier n'a pas répondu à la question de savoir à qui profite le crime, à qui a profité le crime. Tous les agents de l'État, de la police nationale congolaise, qui ont été condamnés jusque hier, ce sont des exécutants. Mais cette décision, ou la justice qui a été rendue jusqu'à ce jour, n'a pas démontré à qui profitait l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Et là, nous saluons la position déjà affichée par la VSV à travers son directeur exécutif, ainsi que par notre co-débatteur Dismas Kitenge. Donc, il reste encore des personnes qui doivent répondre de l'assassinat de nos deux compatriotes.
Et donc, vous êtes convaincu, Maître Kabengele, vous êtes convaincu qu'on n'a pas répondu à cette question à qui a profité le crime. Est-ce que vous pensez que les conditions étaient réunies pour un procès équitable? Pensez-vous que la Cour a pris en compte et avec objectivité les arguments de toutes les parties?
En fait, la Haute Cour militaire a jugé les dossiers en l'état où ils se trouvaient devant elle. C'est-à-dire avec les personnes qui ont été traduites devant la justice militaire pour être jugées. L'instruction de la cause a révélé beaucoup de personnes qui ont été citées et qui ont profité du crime et qui n'ont pas été placées dans le lien judiciaire d'être jugées. Raison pour laquelle nous saluons cette justice parce que les juges pénals en appel ne peut pas aller au-delà de l'effet dévolutif de la peine. Donc, il est lié par le nombre de parties qui ont été jugées par le premier juge. Il ne peut pas étendre sa saisine au-delà des personnes qui ont été jugées au premier degré. Raison pour laquelle, avec les nouvelles plaintes à charge notamment de John Numbi, nous attendons à ce que la justice militaire puisse s'activer afin que ce dernier soit traduit en tant que tel devant son juge naturel pour être jugé de sa responsabilité dans l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana.
L'émission est pédagogique, Maître Kabengele. Un des accusés a été condamné avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que s'il avait commis cet assassinat, c'est parce que certains facteurs l'ont amené à le faire?
Les circonstances atténuantes ne sont pas légales. C'est le principe et le relève de l'appréciation souveraine du juge. On sait que on peut considérer que c'est une personne qui est un délinquant primaire, qui n'a jamais commis de forfait. On peut considérer sa situation de famille. On peut considérer sa disposition à collaborer avec la justice. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de ce qu'un juge peut considérer comme circonstance atténuante, ainsi réduire la peine. Mais par rapport au mode opératoire, au rôle joué par Jacques Mugabo dans l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi, lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, les circonstances aggravantes avalent, absorbent les circonstances atténuantes. On sait que lorsqu'on parle de l'assassinat, c'est que la loi a déjà aggravé le sort de la personne. Et là où la loi, le législateur, aggrave le sort d'un délinquant, il n'y a pas lieu au juge pour aller chercher dans les faits les circonstances atténuantes.
Mais aussi, lorsque on met en exergue les circonstances atténuantes, n'est-ce pas une façon de justifier l'acte de ces messieurs? Et cela poserait, n'est-ce pas, un problème d'éthique, Maître Kabengele?
Je voudrais dire ceci. Le législateur aggrave le sort du criminel lorsqu'il s'agit de l'assassinat, c'est-à-dire homicide avec préméditation. Lorsque le législateur a déjà relevé les taux de peine par rapport à un homicide avec préméditation, il ne revient pas au juge d'aller chercher des circonstances atténuantes, parce que le législateur lui-même a déjà pris en considération le comportement criminel en punissant l'auteur de faits de circonstances aggravantes. Donc, en principe, si le juge devrait demeurer fidèle à la loi, il n'aurait pas dû retenir les circonstances atténuantes parce qu'il y avait déjà, et par la volonté du législateur, des circonstances aggravantes.
Alors, lorsqu'on dit la peine est assortie d'une sûreté de 10 ans, cela veut dire quoi?
C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il ne peut pas bénéficier de libération conditionnelle ou bien d'une mesure de gaz. Il devrait rester en prison. Revenons sur les cas qui nous ont concernés, des circonstances atténuantes. Le législateur dit que celui qui est reconnu coupable d'assassinat est puni de mort. Point. Il n'y a pas le minimum, il n'y a pas de maximum. Vous comprenez? Or, on ne peut appliquer les circonstances atténuantes que là où le législateur prévoit le minimum et le maximum. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à corriger dans l'avenir, dans la façon de dire le droit par notre justice.
Merci. Nous allons maintenant donner l'occasion aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Monsieur Ronstan Manketa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Antoine Elombo Bolenza, depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo. C'est un ouf de soulagement pour les familles des défunts, car naturellement, ces condamnations viennent susciter une considération de leurs frères innocents. Aussi pour la nation tout entière, c'est une leçon modèle à toujours lutter pour défendre ses droits, quelle que soit la durée que la procédure peut prendre. Une leçon de la paix des intouchables dans notre pays. La radiation et la condamnation de ces officiers de police au service est un élément important pour la moralisation de la police et un signe d'avertissement pour les autres. La justice a fait son travail, mais que les DVV soient dédommagés, car elles ont perdu les êtres les plus importants de leur vie.
Monsieur Ronstan Manketa.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis également merci à Monsieur Antoine qui intervient à partir de Kisangani. Mais permettez-moi d'abord, avant de répondre à sa préoccupation, de rejoindre comme co-débatteur. Je voulais dire que par rapport à Fidel Bazana, à ces jours, je crois qu'il a été clairement établi que Fidel Bazana a été assassiné. Assassiné d'ailleurs de la même manière que Floribert Chebeya. Cela a été suffisamment dit lors de ce procès en appel et des témoignages éloquents, et pas des moindres, des policiers qui ont participé à cet assassinat ont été vraiment entendus. Et même Jacques Mugabo, hein, qui a été condamné à ses 12 ans de prison, l'a également confirmé que Fidel Bazana a été assassiné de la même manière que Floribert Chebeya. Et en ce qui concerne la responsabilité de l'État congolais, en fait plutôt les personnes qui ont été citées, qui n'ont pas toutes comparu, je crois que nos débatteurs ont tout à fait raison, parce que c'est d'ailleurs une des exigences que nous avions souhaité, nous, avec tout le collectif des avocats des partis civils, nous avons vraiment exigé que toutes les personnes citées, à quelque niveau que ce soit, que ces personnes-là puissent comparaître pour apporter des éclaircissements à la haute cour militaire, mais cela n'a pas été le cas pour tout le monde. Hein? Et ici, nous faisons allusion à l'ancien chef de l'État de la République, que d'aucuns n'ont pas souhaité, certaines personnes n'ont pas voulu qu'il puisse comparaître, mais je crois que là, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que dans un état de droit, je crois qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la justice, et l'ancien chef de l'État lui-même, je crois que même la loi portant statut des anciens chefs de l'État et d'autres dignitaires de notre pays ne consacre pas vraiment l'impunité, parce que dans cette loi, il est dit que l'ancien chef de l'État doit être à tout moment disponible, il doit agir en tant que patriote, il a le devoir de redevabilité et il doit être disponible à tout moment que la République démocratique du Congo a besoin de lui. Je crois que pour moi, l'ancien chef de l'État aurait dû prendre l'initiative pour avoir été cité de venir, de comparaître, pour apporter des éclaircissements par rapport à tout ce que nous avons entendu, parce que là, il se pose effectivement un problème. on parle de John Numbi, bien sûr, mais il a été dit au procès que John Numbi a reçu l'ordre de l'ancien chef de l'État. Donc, c'est à lui, je pense, de tout faire, de prendre l'initiative au-delà de toutes les protections qu'on voudrait recouvrir, que lui-même prenne l'initiative pour venir éclairer la justice de son pays.
Constant Maketa,
avec le nouveau procès que nous attendons.
Constant Maketa, vous n'avez pas réagi à la réflexion de l'auditeur de Kisangani qui, dans la dernière phrase, il reconnaît que la justice a fait effectivement son travail, mais il pense que les deux veuves doivent être dédommagées car elles ont perdu les êtres les plus importants de leur vie.
Oui, je crois que M. Antoine a complètement raison. Il a la justice a été dite, mais le droit vraiment n'a pas été dit complètement, comme nous le disons. C'est comme ça que nous sommes partiellement satisfaits. Je crois qu'il faut que on aille vraiment au-delà pour rendre effectivement justice à Florimère Tchepé et Sidène Bazana et Dadi, et cela doit impérativement passer également par, je crois, des réparations conséquentes envers les deux veuves, envers les enfants des deux illustres disparus, des deux DDH, et également des réparations conséquentes envers leurs frères et sœurs, les frères et sœurs de Fidel Bazana, les frères et sœurs de Floribert Chebeya. Nous pensons que, je crois, le fonds, le montant qui ont été alloués par la haute cour militaire, qui a bien sûr repris le même montant qu'en 2015, pour nous, ce montant ne correspond pas au préjudice subi.
Il s'agit de 600 000 dollars.
Écoutez, je crois que il est important de voir la gravité de l'assassinat qui a été perpétré dans ce pays. Vous voyez, je crois que 600 000 dollars, écoutez, ce n'est pas un problème, je dirais ici, d'argent, mais je crois qu'il faut honorer la mémoire de ces deux victimes.
Merci.
Et il faut des réparations conséquentes envers leurs familles qui ont subi, je le répète, vraiment subi des préjudices très, 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 très importants. Et cela, je crois, n'est pas à négocier. Il suffit d'y mettre un peu plus d'engagement et de volonté politique pour que cela arrive.
Merci. Dismas Kitenge, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis Kananga, dans le Kasaï central.
Martinez Kounyonga depuis Kananga. Nous saluons les verdicts pris par la haute cour militaire sur l'affaire Chebeya et Bazana. Par contre, cette décision ne garantit pas les droits et libertés fondamentaux qui sont l'apanage de l'état des droits, car la justice n'est pas à la hauteur de rendre de véritables décisions, d'autant plus que les vrais criminels sont toujours intouchables et en liberté.
Dismas Kitenge.
Oui, l'auditeur en partie il a raison. C'est qu'il y a eu des efforts qui ont été faits à travers ces procès, mais il n'y a pas encore une volonté réelle de l'État congolais à protéger davantage les personnes qui s'engagent pour défendre les droits humains, les libertés d'expression, les libertés d'opinion. On voit que ce qui s'est passé à travers Fidel Bazana, Floribert Chebeya, il y a eu encore d'autres défenseurs de droits humains qui ont déjà perdu la vie. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la partie Est où il y a l'état de siège, où il y a encore des problèmes, que les défenseurs, les journalistes sont encore tués. Donc cette volonté de pouvoir protéger ceux qui défendent le valeur de droits humains de la démocratie n'est pas encore là. Donc il y a encore, à travers ces procès de Chebeya, se pose véritablement le problème de respect des droits humains, le respect des droits des défenseurs de droits humains et la problématique de la démocratie de la société congolaise.
Dites-moi,
ceux qui parlent de la démocratie ne sont pas protégés.
Voilà,
ils sont souvent harcelés, menacés.
Le manque de volonté de la part des responsables politiques de la RDC de pouvoir rendre justice aux défenseurs des droits humains, si on peut considérer ça comme l'une des leçons, n'est-ce pas, à tirer de ces procès, quelles sont les autres leçons qu'on peut en tirer?
La première leçon, c'est que la justice veut faire son travail, mais la justice manque de moyens, insuffisance de moyens. Je ne dis pas que les moyens n'existent pas, mais les moyens qu'on lui donne ne lui permettent pas de faire un travail profond et un travail de qualité. Ça, c'est la leçon à tirer. Deuxième leçon à tirer, c'est que aujourd'hui, la question des droits humains doit être inscrite dans le schéma du développement du pays. C'est qu'on développe les pays par le développement des droits humains, par le respect des droits humains et le respect de la démocratie. Et le respect de ces acteurs-là, qui doivent être donc au cœur du développement du système démocratique et du système protecteur des droits humains au Congo. Cela n'est pas encore là. Et troisièmement, il faut protéger ces personnes-là, à travers des mécanismes, par exemple, législatifs, il faut qu'il y ait une loi qui protège les défenseurs. Les cas Floribert Chebeya et Fidel Bazana, leur double assassinat, devraient conduire le pays à la protection de ces personnes-là, à travers des mécanismes clairs, la loi, à travers des moyens clairs pour exprimer leur expression, leur liberté. Cela n'est pas encore arrivé. Et il y a aussi la question de réparation, des réparations véritables. Réparation n'est pas qu'un problème financier, mais ça peut être aussi des réparations d'ordre symbolique. Pourquoi n'est pas, par exemple, arrivé à travers ces procès-là, Chebeya, Bazana, reconnus comme des défenseurs des droits humains, qui ont donné de leur vie pour que les droits humains et la démocratie puissent avoir un sens dans ces pays, les reconnaître à travers les personnes qu'on peut décorer dans ces pays, ou à travers une journée dédiée à toutes les victimes de la démocratie et des droits humains au Congo, et accorder des prix officiels. Merci. Donc voilà, ça c'est aussi des reconnaissances qui vont au-delà des problèmes d'indemnisation, qui sont des reconnaissances politiques. On peut prendre une journée dédiée à Chebeya à Bazana, mettre aussi une journée de démocratie où on évoque, construire des monuments. On peut construire un monument, un mémorial qu'on dédie à Floribert Chebeya à Bazana, qui doit être une symbolique qui montre que ces personnes ont réellement travaillé pour le pays, ont versé leur sang pour le pays. Reconnaître aussi les autres défenseurs qui sont encore en vie, merci, mais qui se battent pour la démocratie et les droits humains, mais aussi faire en sorte que la question de la justice soit incluse dans la coopération internationale. Il est regrettable, nous savons, l'auditeur général des Forces armées nous l'a dit, qu'il y a un mandat d'arrêt international contre le général Numbi et contre d'autres. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce mandat-là? Pourquoi la RDC et le gouvernement n'incluent pas ça comme une conditionnalité de la coopération internationale? Parce que si on a des soupçons que ces fugitifs-là se trouvent dans un pays, on oblige ces pays-là que pour coopérer avec ces pays, il faut que vous nous rendiez les personnes qui ont commis des violations graves des droits humains que vous protégez dans votre pays.
Merci, alors, Ismaël, on a compris.
Des droits humains dans la coopération internationale, dans la politique de la coopération internationale, la RDC n'est pas encore suffisamment prise en charge.
Merci, Maître Kabengela.
Et c'est ça qui traduit aussi les procès.
Merci, Maître Kabengela. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Baraka Mwali Kwa Valérie, depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Dans notre cher pays, la RDC, la condamnation est une chose, l'exécution de cette peine en est une autre. Je ne suis pas surpris de voir, après quelques jours, ces condamnés bénéficier d'une libération d'une manière aussi obscure. Dans ce pays, être condamné ne signifie pas nécessairement qu'on exécutera la peine infligée. C'est là où réside même l'impunité.
Maître Jean-Marie Kabengela.
Oui, le compatriote peut avoir raison. En fait, je pense, comme on a dit, qu'il y a 10 ans incompressibles de sûreté. Et donc, les compatriotes qui ont été condamnés devraient rester en prison. Mais s'il arrivait, pour une raison ou une autre, qu'une grâce leur soit accordée ou une libération conditionnelle leur soit accordée, ça serait vraiment favoriser l'impunité. Nous disons et nous le répétons, la justice doit être égale pour tous. Et il y a des règles, des droits, qui permettent à ce que John Numbi soit jugé même par contumace. En fait, que les règles de droit sur la justice militaire permettent qu'un militaire fugitif soit signifié des actes de procédure à travers son commandant d'unité. Si John Numbi se cache quelque part, il est important de mettre en branle la procédure de notification des actes de procédure à travers son commandant d'unité et être jugé par contumace. N'oublions pas que dans sa défense, Daniel Mukalai avait dit qu'on était en train de lui faire porter le chapeau des actes posés par autrui. La question était de savoir si Mukalai, qui était alors condamné comme exécutant, mais il a exécuté l'ordre de qui ? Au profit de qui ? Qui a profité ? Et puis, toutes les personnes qui ont été condamnées là, qui avaient des comptes à rendre à Chebeya ? Je pense qu'il n'y a personne et ils n'ont fait qu'exécuter l'ordre qui a été donné. Maintenant, notre justice devrait établir de manière définitive de qui émanait l'ordre. Et en ce moment-là, on pourrait avoir l'impression que la justice a été rendue.
Maître Jean-Marie Kamengela,
ne sera pas, oui.
Oui, nous sommes à la fin de l'émission. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces procès Floribert Chebeya, Fidel Bazana, en guise de conclusion?
Nous pouvons tirer comme leçon que tôt ou tard, la justice sera rendue lorsqu'il y a une volonté politique telle que celle affichée par le président de la République actuelle. Parce que nous pensons et nous notons que n'eût été la passation civilisée de pouvoir, n'eût été le régime dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce procès n'aurait pas eu lieu. En cela, nous saluons donc l'émergence de l'état de droit et le fonctionnement de notre justice militaire. Autre leçon que nous pouvons tirer, c'est que quelque part, les commanditaires sont encore en cavale et ils doivent répondre de leurs actes. Nous tirons encore comme leçon que la règle de droit n'a pas été appliquée équitablement, en fait que on ne peut pas administrer des circonstances atténuantes là où le législateur a élevé un comportement en circonstances aggravantes.
Merci. Ronstan Maketa, pour vous, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces procès? Ça sera sous votre conclusion.
Écoutez, le procès pour nous n'est pas encore fini. Je crois qu'il y a encore un chemin, un bout de chemin à parcourir. Mais qu'à cela nous tienne avec tout ce à quoi nous avons assisté au premier procès en appel et encore en appel, je crois que il faut qu'on se dise que les défenseurs des droits humains sont des personnes très très utiles, indispensables pour la construction d'un état des droits démocratiques. Et cela se justifie par la forte mobilisation qu'il y a autour de cette affaire au niveau non seulement national, régional et international. Et il est donc important, je crois que la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les défenseurs des droits humains puisse se poursuivre, et cela doit passer impérativement par l'organisation d'un nouveau procès au cours duquel toutes les personnalités citées, nous l'avons dit, à quelques niveaux qu'elles se trouvent, puissent comparaître. C'est ça aussi, aider son pays à aller de l'avant.
Merci, Dismas Kitenge. Votre mot de la fin?
Le procès Floribert Chebeya, le procès Fidel Bazana, c'est un procès de l'histoire. De l'histoire démocratique de la RDC, et la vérité finira par éclater avec les changements démocratiques, avec les changements des mentalités, mais aussi avec la détermination de ces acteurs de droits humains qui se trouvent aussi bien dans notre pays qu'en international. Donc l'affaire Chebeya et Bazana, ce procès-là, c'est un procès de tout un peuple à la quête de la démocratie, à la quête de la justice et à la quête de la réparation.
Merci à vous, Monsieur Rostan Manketa, Maître Jean-Marie Kabengela et Monsieur Dismas Kitenge, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa ainsi que Bob Milandou qui ont été à la technique et à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Okapi.